Bienvenue dans Minuit Cauchemar, chronique de la nuit noire et de l'épouvante. Le podcast qui explore les histoires qui glacent le sang, les cauchemars qui hantent vos rêves les plus profonds. Bienvenue dans Minuit Cauchemar, votre podcast True Crime, où nous plongeons dans les récits les plus sombres et les plus terrifiants de l'histoire criminelle. Dans cet épisode, nous explorons le monde perturbant des babysitters, à travers deux faits divers, glaçants, survenus en France dans les années 2000, ainsi que le film culte « Anniversaire sanglant » sorti en 1981. Préparez-vous à être captivé par ces histoires troublantes où l'innocence se transforme en cauchemar. Le 12 août 2009, Andy, 16 ans, s'est réveillé à 3h du matin, a empoigné un fusil dans le râtelier du salon et a logé une balle dans la poitrine de son père, de sa mère et dans la tête de ses deux frères jumeaux de 10 ans, gommant ses origines et sa généalogie. L'histoire d'un gentil fils de famille, harassé de démons, qui a renversé l'ordre du monde. L'un de ses oncles l'a retrouvé quelques heures auparavant, alors qu'il errait, désorienté, sur la plage d'Agosta. Face aux gendarmes, Andy apparaît en état de choc. Il déclare qu'il a tué sa famille. Dans la maison familiale, les gendarmes découvrent une scène de crime des plus glaciales. Les parents, Patrice et Nadine, gisent dans leur lit, couchés sur le ventre. Le visage du père est caché par un oreiller. Tous deux ont été touchés au cœur et au thorax. Les jumeaux sont retrouvés dans leur lit respectif. Liam a été touché à une main, sans doute voulait-il se protéger, puis à la tête. Douane à l'avant-bras droit et également à la tête. Andy déclarera plus tard qu'il les avait entendus gémir et comme il ne voulait pas qu'ils souffrent, il les a achevés en visant la tête. En garde à vue, Andy raconte avec beaucoup de détails le déroulement des crimes survenus la nuit précédente. Ce soir-là, ses parents étaient invités à dîner chez des voisins. Lui était chargé de la garde des jumeaux. L'adolescent décrit une soirée banale, sans incident. Il n'avait consommé ni drogue, ni alcool. Vers 3h du matin, Andy s'est soudain réveillé. Il est sorti de son lit, de façon mécanique, a enfilé des gants en latex. Il fait main basse sur de l'argent liquide dans le coffre de la maison et dans le portefeuille des parents. « Il avait dans l'idée de s'enfuir », affirme-t-il. Mais au moment de partir, il passe devant le râtelier où se trouve le fusil à pompe Winchester de son père. Il l'attrape, le charge machinalement et mène son expédition macabre. Lors du procès, il déclare avoir eu une envie irrépressible de tirer, une pulsion plus forte que lui. En novembre 2012, après plusieurs décisions contradictoires, la Cour d'assises des mineurs de Corse du Sud déclarera Andy irresponsable de ses actes. Happy Birthday to Me ou Anniversaire sanglant, film sorti en 1981, d'entrée de jeu, on met la table avec une strangulation automobile ratée, suivie d'un tranchage de gorge au rasoir. On ne voit pas trop notre mystérieux meurtrier, à part ses gants de cuir à l'italienne. Ensuite, on apprend à connaître nos protagonistes, soit des collégiens POS de la Crawford Academy, portant tous le même foulard lorsqu'ils sortent dans les bars. On y rencontre la jolie Virginia, alias Ginny, notre personnage principal, une jeune fille de 18 ans, fut jadis victime d'un accident de voiture dans lequel elle perdit sa mère. Ginny qu'on suivra partout, de l'école, où on dissèque et électrocute des batraciens, à son logis, jusqu'à l'hôpital où elle est suivie. C'est que, suite à ce terrible accident, Ginny dut subir une délicate opération au cerveau. On en voit même un bout, dont elle en garde des séquelles. En plus d'être amnésique, elle est en proie à de terrifiantes hallucinations, absences, flashbacks ou autres inquiétantes visions. Pas facile pour Ginny. Au sein du lycée dans lequel elle étudie, elle fait partie de ce que l'une de ses professeurs, Madame Patterson, Frances Highland, appelle la confrérie. Un cercle très fermé de 10 amis, pensant faire partie d'une élite. Un cercle décrit par la Dame Muir comme nuisible aux aptitudes de chacun, et particulièrement de Virginia, qui, selon elle, serait déjà à Harvard sans cette confrérie composée de petits-enfants des riches. Tout va se jouer un soir, lors d'une virée en voitures avec la bande. Les élèves se défient pour franchir chacun leur tour une rivière en sautant à grande vitesse le pont mobile qui permet de passer d'un bord à l'autre. C'est de justesse que l'une des voitures atterrit de l'autre côté. D'abord choquée, puis énervée, l'événement va provoquer un malaise tout d'abord franc et ensuite plus sournois chez Virginia. Cette nuit ne sera pas sans laisser des stigmates. Virginia semble désormais, par flash, retrouver la mémoire. Elle est aidée en cela par le docteur Faraday, un psy qui tente de l'aider à se déculpabiliser, en plus de lui faire retrouver ses souvenirs. Dans un même temps, ses amis membres du cercle commencent à disparaître dans des circonstances autant sanglantes que singulières, ce à l'approche de son anniversaire. Virginia, en plus de se voir soupçonnée par les autres, commence à croire qu'elle n'est pas étrangère au phénomène, le pré-final consistant en une réunion de cadavres affublés de cotillons, de chapeaux pointus et de serpentins, tous attablés comme pour souffler les bougies d'une Virginia, peut-être passablement schizophrène, s'apprêtant à fêter ses 18 ans, est un moment à la fois foutraque, grand guignolesque et jubilatoire. Le jeu de massacre effectué jusqu'ici sur nos jeunes sans scrupules atteint alors une sorte d'apothéose humoristique absurde assez grandiose. Le 27 octobre 2004, dans un petit village du pays de Caux, en Normandie, Pierre, 13 ans, abat ses parents et son petit frère de 4 ans à coups de fusil de chasse. Il blesse grièvement sa sœur de 11 ans. Assis dans le canapé familial, le fusil à la main, Pierre, 13 ans, regarde le film Shrek à la télé quand sa maman Lydie rentre à la maison avec son petit frère Louis. Pierre dira aux enquêteurs « Je faisais mes devoirs et soudain, j'ai eu envie de tuer mes parents. » Vers 15h. Lorsque sa mère est revenue avec le petit Louis, il l'a abattu. Puis il a fait faire à son petit frère des dessins dans une chambre à l'étage. Lorsque Marion revient de la piscine, il lui tire dessus dans la cuisine. Louis se met à hurler en haut des escaliers. Pierre n'en avait sans doute pas l'intention avant, mais il le tue alors. Il retourne au canapé du salon pour regarder la suite du film. Son père revient du travail, il le tue. Tandis que sa sœur réussit à sortir de la maison pour se réfugier chez des voisins, il prend un sac à dos et part sur son vélo. D'une cabine téléphonique, à 15 km de là, il raconte une histoire mensongère aux gendarmes qui le font parler pendant un quart d'heure pour le localiser et l'interpeller. Et son père, le dernier à être rentré à la maison. Sa sœur Marion a survécu à ses blessures. Entre deux exécutions avec le fusil de chasse de son père, il retourne regarder le film d'animation Shrek dans le salon. Décrit dans son village comme un ange, un enfant sans problème dans une famille sans histoire, il a été condamné en 2005 à 18 ans de réclusion criminelle par le tribunal pour enfants de Rouen. Les histoires des enfants tueurs s'entremêlent dans une toile sinistre de crimes et d'épouvante. Ces récits nous rappellent que le mal peut prendre des formes insoupçonnées, même parmi les plus jeunes. Les enfants tueurs nous confrontent à une réalité dérangeante, où l'innocence est perdue et où la ligne entre le bien et le mal devient floue. Alors méfiez-vous des ombres qui rôdent dans la nuit, car le danger peut se cacher là où on l'attend le moins. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes de Minuit Cauchemar. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ajouter des étoiles sur Apple et Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux.